cuando Lukashenko ofreció a la parte rusa enviar a otro cosmonauta belaruso al espacio, el embajador de Belarus presentó sus credenciales al presidente de Sudáfrica. Belarus acordó grandes suministros de maquinaria a Nicaragua. Cuba está interesado en la experiencia belarusa en el desarrollo de la agricultura. El presidente de la UEFA en contra de la exclusión de los futbolistas belarusos de las competiciones. Las academias olímpicas de Belarus y Rusia pactaron la cooperación. Ahora, sobre estos y otros temas en detalles, primero tocaremos los temas oficiales. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, ofreció a la parte rusa enviar a otro cosmonauta belaruso al espacio, lo dijo en una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en Moscú. Durante el encuentro, el jefe de Estado agradeció a Vladimir Putin el apoyo a Belarus en el envío de su primer cosmonauta a la Estación Espacial Internacional.
Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полета не было.
Está claro que si no hubiera sido por su decisión entonces no habría habido vuelo, pero entonces acordamos que debía volar una mujer belarusa. De entre más de 2.000 elegimos a 6 y luego a 2, la cosmonauta principal y la suplente. La premiamos, se convirtió en la heroína de Belarus igual que en Rusia. Queremos trabajar con los rusos en el futuro y quizá dentro de 2 años poner en órbita un nuevo satélite con una resolución de 25 centímetros, serán palabras mayores. Estamos trabajando en ello, no hay duda de que lo haremos. Y en cuanto a los cosmonautas, trabajaremos juntos. Estamos dispuestos a unirnos a su programa, al de los cosmonautas rusos, no necesariamente belarusos, sino ruso, alcanzaron progresos significativos. Tenemos personas, incluidas mujeres, listas para volar. En Roscosmos no hay rechazo. Si nos apoyan, también estamos preparados para enviar a la segunda chica, que era suplente. Está preparada, gastamos mucho dinero en su preparación. Si existe el deseo y su voluntad al respeto, está preparada para seguir trabajando y entrenándose. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, exige que las empresas industriales vuelvan a trabajar activamente en el mercado ruso. Lo declaró en la reunión sobre el estado y las tareas del desarrollo de la industria. A pesar de que más del 90% de los productos van al mercado ruso, los fabricantes belarusos están perdiendo allí sus posiciones en los productos tradicionales que siempre eran demandados por su calidad y fiabilidad. Me informaron de que hoy en día los productos nacionales son inferiores a sus análogos tanto en precio como en calidad. En el precio sigue siendo comprensible, pero ¿por qué la calidad? Las exportaciones de tractores belarusos en 2023 se disminuyeron el 18%. La cuota de nuestros tractores en las importaciones rusas cayó al mínimo de la última década, el 10,5%, mientras que la cuota de camiones al 6%, dijo Alexander Lukashenko. Las mismas tendencias amenazan, según él, se están desarrollando en Atlant. Los volúmenes de exportación de frigoríficos y congeladores demandados ayer se redujeron casi a la mitad. ¿Qué nos impide vender productos? China, India, etcétera. Acostúmbrense a la competencia. La competencia no hará más que aumentar. Llegamos a un punto en el que se producen paradas sistemáticas y se obliga a la gente a irse de vacaciones. Estamos perdiendo el mercado. ¿Por qué? El jefe de Estado recordó que en su discurso anual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que para 2030 los sujetos de la Federación deberían recibir unos 40.000 autobuses, trolebuses, tranvías y autobuses eléctricos. El dinero para ello está previsto. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Belarus, Igor Bele, presentó sus credenciales al presidente de Sudáfrica. Durante la breve conversación, el jefe de la misión diplomática belarusa abordó con el líder sudafricano temas actuales de la agenda bilateral, entre ellos el calendario de visitas de alto nivel, la puesta en marcha de la producción de montaje de tractores belarusos en Sudáfrica, así como la interacción entre los dos países en las plataformas internacionales, en particular en BRICS. El ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Sergei Alenik, mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Yehun Bayramov, que asiste a una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEIP. Durante las conversaciones, Belarus y Azerbaiyán reafirmaron su interés en seguir fortaleciendo la cooperación bilateral. Los cancilleres expresaron su convicción de que la hoja de ruta firmada en febrero de 2024 dará un nuevo impulso al desarrollo de toda la gama de relaciones bilaterales, contribuirá a la expansión sustantiva y la intensificación significativa de la interacción entre todos los países. El documento prevé más de 60 medidas específicas dirigidas principalmente a desarrollar áreas temáticas de cooperación económica y aumentar el volumen del comercio mutuo de bienes y servicios. Las conversaciones se centraron en una amplia gama de temas de cooperación de la ruso-azerbaiyana en las esferas política, comercial y económica y humanitaria, así como en la interacción en plataformas internacionales. Sergei Alenik y Yehun Bayramov prestaron especial atención a la organización de próximas visitas y contactos al más alto, la profundización de las relaciones comerciales, la cooperación industrial y la puesta en marcha de proyectos comerciales y económicos conjuntos. Además, acordaron seguir apoyándose mutuamente en el marco de las organizaciones internacionales. Ambos países comparten el principio de respetar la vía soberana de desarrollo del Estado, la inadmisibilidad de la injerencia de los asuntos internos y la aplicación de métodos ilegales de presión en las relaciones internacionales. El programa de consultas entre los ministerios de Asuntos Exteriores de Belarus y Uzbekistán para 2024-2025 fue firmado en Minsk. La firma del programa fue el resultado de las conversaciones entre los cancilleres de ambos países, durante las cuales se confirmó el interés mutuo en ampliar la cooperación belaruso-uzbeca en todos los ámbitos y se esbozaron medidas concretas para aplicar los acuerdos al más alto nivel. Se trata de la primera visita oficial a Minsk del ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán en la historia de las relaciones bilaterales. El representante permanente de la República de Belarus ante las Naciones Unidas, Valentín Rybakov, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, informaron en el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante la reunión, las partes intercambiaron puntos de vista sobre temas actuales de la interacción entre la República de Belarus y las Naciones Unidas. Además, Valentín Rybakov entregó al secretario general un mensaje personal del presidente de la República de Belarus, Alexander Lukashenko, con el agradecimiento del nombramiento del coordinador residente de la ONU en Belarus. El embajador de Belarus en Rusia, Dmitry Krutoy, se reunió con el embajador del Estado de Kuwait en Rusia, Rashed Aladvani, informaron en el servicio de prensa de la misión diplomática belarusa. Los interlocutores examinaron las cuestiones de la cooperación entre Minsk y Kuwait en las esferas política y económico-comercial. En particular, señalaron la importancia de celebrar la próxima ronda de consultas interministeriales, así como una comisión conjunta belaruso-kuwaití de cooperación económica, comercial y técnica que contribuirá a resolver los problemas de la cooperación bilateral en la política, la economía, así como en la dirección humanitaria, contaron en el servicio de prensa. Dmitry Krutoy llamó a aprovechar más activamente el potencial de las comunidades empresariales de los dos países para ampliar las relaciones comerciales y económicas. Rashed Aladvani mostró interés por la experiencia belarusa en el desarrollo de la agricultura, notó que las autoridades kuwaitíes conceden gran importancia a este ámbito, especialmente en el contexto de la seguridad alimentaria. En este sentido, el embajador de Belarus invitó a parte kuwaití a participar en la exposición agrícola Belagro programada del 4 al 9 de junio, añadieron en la misión diplomática. Andrei Yarotsky, director general de Amcodor, informó a los periodistas sobre los planes de suministro de maquinaria en el seminario Reunión de las Empresas de Sistemas de Recuperación de Tierras de Belarus. Estamos preparando la entrega de equipos a Nicaragua. El jefe adjunto de la administración del presidente está allí ahora. Y tenemos un contrato para la entrega de 260 unidades de maquinaria de construcción de carreteras a este país. Y según los resultados de la visita, debería alcanzarse un acuerdo acuerdo concreto sobre la ejecución de este contrato, dijo Andriy Yarotsky. Según él, también se está estudiando la entrega de más de 80 unidades de maquinaria a Zimbabue. Guinea Ecuatorial también está interesada en nuestras máquinas forestales. Se están elaborando los contratos y esperamos que este año se realicen las primeras entregas de máquinas a Guinea Ecuatorial, Zimbabue y Nicaragua, dijo el director general. Amcolor es uno de los principales fabricantes de la más amplia gama de modernas máquinas especiales de alto rendimiento para todos los sectores de la economía. Solo en 2023 se crearon 11 nuevos modelos de maquinaria especializada y agrícola. La Academia Olímpica de Belarus y la Academia Olímpica Central de Rusia firmaron en Minsk un acuerdo de cooperación, informaron en el servicio de prensa del CON. Las partes tienen previsto intercambiar experiencias en el desarrollo de la educación olímpica y proyectos conjuntos. La firma del acuerdo tuvo lugar durante la Conferencia Internacional Científico-Práctica La Educación Olímpica en el Sistema de Interacción Intercultural, en el marco del quinto Festival de Ciencia Universitaria en la Universidad Estatal de Cultura Física de Belarus. El presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, Alexander Cecerin, se pronunció en contra de la exclusión de clubes e equipos belarusos de los torneos auspiciados por la organización. Lo dijo en una entrevista concedida a la edición española Infolibre. En primer lugar, ningún político nos va a decir lo que tenemos que hacer y no vamos a escuchar a ningún político. Estoy en contra de los boicots, no me gustan los boicots ni las prohibiciones, dijo. El jefe de la UEFA también añadió, en lo que toca a Belarus, varios políticos nos escribieron decidiendo que todos los que ayudaron a Rusia deberían ser suspendidos. Ahora yo pregunto, ¿ayudan a Rusia los que compran gas? Deberíamos excluir a todos los países europeos, incluso a los más grandes que siguen comprando gas. Los políticos son los que tienen que resolver los problemas geoestratégicos. Exigir que las organizaciones deportivas hagan su trabajo es populismo y nada más. Cuando empiezo a recibir cartas de un país, sé que se acercan las selecciones en ese país. Luego se calman, notó Alexander Cecerin. Para hoy es toda la información. Esto fue el programa Belaruso en Día, donde les contamos de los acontecimientos de la semana. Los materiales de los informativos fueron compuestos a base de los de la agencia telegráfica Belta y los materiales propios de Radio Belarus. Para vosotros ha trabajado Nadia Vishnevska. Hasta pronto.
Belarus hoy en día. Resumen de los acontecimientos principales de la vida política, económica y sociocultural del país en las ondas de Radio Internacional Belarus.
La región de Brest. Bienvenidos a Belarus. La región de Brest es la parte suroeste de Belarus que limita con Polonia y Ucrania. Las riquezas naturales únicas de la región se conservan en los 12 vedados. Ciertamente el mayor orgullo de esta región es el Parque Nacional Estatal Belovezhskaya Pusha, que es conocido en primer lugar por los suros, que desde mucho tiempo son uno de los símbolos de Belarus. Y un lugar atractivo más en la región de Brest es el antiguo Kamianets. Aquí se encuentra la famosa Torre Blanca, que es el monumento de la arquitectura del siglo XIII, que hasta hoy día impresiona por su potencia y perfección. Aquí trabaja la exposición única del museo. El centro de la región, la ciudad de Brest, es conocida como la Puerta Occidental de Belarus. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se hizo famosa gracias a la hazaña de los defensores de la fortaleza de Brest, que más tarde recibió el título La Fortaleza Héroe. Los acontecimientos legendarios de aquellos tiempos son inmortalizados en el complejo conmemorativo, uno de los lugares más renombrados de la gloria de combate en nuestro país. Brest, la ciudad con la gloriosa historia multisecular, hoy en día lleva una vida rica en acontecimientos. Tocándola, pueda recibir las impresiones inolvidables y comprender mejor la historia del pueblo bielorruso. Bienvenidos a Belarus.
Estimados oyentes, sus cartas más interesantes se colocan ahora en una sección especial del sitio web de la Radio Internacional Belarus, www.radiobelarus.tvr.by, en adelante la sección buzón de correo. Busquen sus cartas y las respuestas a ellas en nuestro buzón de correo.
Al este de Belarus, a la frontera de Belarus. Północno-zachodnim regionem Białorusi.
Escuchen Radio Belarus.
Wrocław 0807, Minsk, Republic Belarus. Sie können uns außerdem
Если вы спросите, что такое Беларусь, ответим, что это страна, которую возьмешь.
Приезжаешь, они очень тепло
встречаются
белорусов.
Прыгожая поэтичная назва. Найлепшее значение для нашей краины.
C'est la Radio Belarusse Internationale de Minsk.
Belarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Belarus. Bonjour chers auditeurs francophones, je m'appelle Katerina Poletaev et je vous salue sincèrement sur les ondes de la radio Belarus. Notre radio propose à votre attention le projet Belarus de A à Z. Belarus de A à Z. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de la vie et l'œuvre de Stanislav Moniuszko. Qui est-ce ? Eh bien, c'est un compositeur, pianiste et organiste biélorusse et polonais, chef d'orchestre et pédagogue, auteur classique de la chanson lyrique polonaise et biélorusse, fondateur de l'opéra national classique. Stanislav Moniuszko est né le 5 mai 1819 dans la famille des propriétaires fonciers polonais à Ubel, près de Minsk, au Belarus. Il a reçu l'éducation primaire à la maison et l'éducation musicale dans une des écoles spécialisées à Minsk. Moniuszko a aussi étudié le piano avec sa mère avant de commencer de sérieuses études de composition à partir de 1837 à Berlin. Revenu en Pologne pour se marier en 1840, Stanislav Moniuszko a accepté le poste d'organiste de la paroisse Saint-Jean de Vilnius, où il a aussi enseigné le piano et à l'occasion dirigé l'orchestre du théâtre local. Il s'est lié alors d'amitié avec l'écrivain Krachevski, contact qui stimule l'intérêt de Moniuszko pour la musique lyrique. C'est à cette époque-là, au milieu des années 1840, qu'il a commencé à composer intensément. Il a écrit ses premiers opéras, d'autres œuvres théâtrales et des cantates. De 1840 à 1858, c'est-à-dire pendant 18 ans, Stanislav Moniuszko a travaillé comme organiste et chef d'orchestre à Vilnius. Vers cette époque, il a également commencé à travailler sur la collection de chansons intitulée Spiewnik Domowy, chant à domicile, qui recevrait un accueil très chaleureux auprès du public polonais. Le premier volume de cette collection a été publié en 1843 et a rencontré un grand intérêt parmi le public et les critiques musicaux. Au fil des ans, la collection s'est enrichie de 12 volumes, 267 chansons avec accompagnement de piano. Bien que la plupart des chansons étaient simples, principalement strophiques, il y avait aussi celles en forme de dialogue ou des ballades. La plupart des chansons témoignaient de l'originalité et de l'inventivité mélodique du compositeur. La source des mélodies et des motifs rythmiques de Moniuszko provient souvent du folklore musical polonais. Au cours de sa vie, Moniuszko a plusieurs fois voyagé à Saint-Pétersbourg, où ses concerts ont été très bien reçus. Serov, un jeune critique russe de l'époque, appelait les compositions de Moniuszko des œuvres brillantes. À Saint-Pétersbourg, Stanislav Moniuszko a rencontré et est devenu ami avec beaucoup de ses contemporains éminents, Mikhail Glinka, Mili Balakiriev et Modeste Moussorski. Il a consacré son ouverture Baïka, conte de fées, à Alexandre Dargomyshski, avec qui il est devenu très proche. En 1858, Moniuszko a visité Paris et Berlin. Il a rendu visite à Bedřich Smetana à Prague et a fait connaissance avec Franz Liszt. Belarus de A à Z.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Belarus de A à Z sur les ondes de la radio Belarus. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à Stanislav Moniuszko, compositeur biélorusse et polonais, qui est à juste titre considéré comme père de l'opéra classique biélorusse. Le moment le plus crucial de la carrière de Moniuszko était cependant sa visite à Varsovie. À partir de 1858 jusqu'à la fin de sa vie, Moniuszko était chef d'orchestre au théâtre d'opéra à Varsovie et professeur à l'université musicale à partir de 1856. Le grand auditorium de 1800 places assises au Grand Théâtre de Varsovie porte son nom. En tant que pédagogue, Stanislav Moniuszko a rédigé un traité d'harmonie, édité à Varsovie en 1871. Pour Stanislav Moniuszko, la création de ses premières vaudevilles, comédies musicales et opéras comiques est liée avec le Bélarus. En 1834, les amateurs de la musique à Minsk ont mis en scène l'une de ses premières œuvres musicales, Les Agents de Bureau. Sa farce a un acte, la loterie, libretto par Corbin Milevski, a été monté en 1841 à Grodno et en 1843 à Minsk. Vers 1848, sur l'œuvre de Vincent Dounin-Martinkevitch, Stanislav Moniuszko a composé l'opéra comique Idyl, qui pour la première fois a été mise en scène le 9 février 1852 à Minsk, puis dans tout le Bélarus, à Bobruisk, Sloutsk, Niesvij, Glusk et dans d'autres villes. Grâce à la langue biélorusse employée dans le libretto à côté du polonais et au recours au folklore, c'était un grand événement dans l'histoire de la culture musicale biélorusse. Pour la première fois, des mélodies nationales, des proverbes et des dictons se sont fait entendre sur la scène du théâtre biélorusse. Ce n'est pas seulement l'audace créatrice du dramaturge et compositeur qui s'est hasardé à déclarer ouvertement ses sympathies dans des conditions de l'humiliation de tout ce qui était biélorusse. C'était une action mûrement réfléchie et délibérée, reflétant la position créative, civile et idéologique des auteurs. Il a fallu avoir un grand courage à l'époque de l'empereur Nicolas Ier pour parler du servage comme dans l'opéra Idyl de Vincent Dounin-Martinkevitch et Stanislav Moniuszko. Même les amis proches ne partageaient pas toujours leur point de vue. Même l'écrivain biélorusse Vladislav Sirokomla, qui a salué Dounin-Martinkevitch pour avoir été le premier qui a eu le courage d'écrire une grande œuvre en notre langue populaire, estimait que ses travaux étaient trop pointus. À Varsovie, le célèbre critique musical de l'époque, Sikorski, a plusieurs fois reproché à Stanislav Moniuszko que ses œuvres touchaient aux questions sociales trop aiguës, ce qui donnait à sa musique un caractère indésirable. Bélarus de A à Z. La vision du monde de Stanislav Moniuszko s'est formée dans sa jeunesse qu'elle a passée au Bélarus. Dès son enfance, le futur compositeur a senti la beauté et l'attractivité du folklore et surtout de la chanson biélorusse. Pendant toute sa vie, Stanislav Moniuszko a entretenu des liens étroits avec les musiciens biélorusses et leur apportait son soutien dans leur activité artistique. Stanislav Moniuszko enseignait le piano à la pianiste minskoise Gorvat, envoyait les œuvres des auteurs biélorusses à Liszt, écrivait des articles sur ses compatriotes, faisait l'analyse de leurs travaux, en particulier de la grammaire musicale de Napoléon Horda. Et maintenant, chers amis, le moment le plus agréable de notre émission. Je vous propose d'écouter une des œuvres de Stanislav Moniuszko, interprétée par l'ensemble biélorusse classique avant-garde. Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Bélarus. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio Bélarus. Après cette brève pause musicale, je continue de parler de Stanislav Moniuszko, célèbre compositeur biélorusse et polonais, fondateur de l'Opéra National. On doit surtout à Stanislav Moniuszko des partitions destinées à la voix, une douzaine d'opéras et autant d'opérettes, sans compter d'autres pages destinées à la scène, de la musique vocale sacrée et profane, ainsi que 360 mélodies. Dans le domaine instrumental, on ne compte guère que trois ouvertures et une polonaise de concert pour orchestre, quelques pièces pour piano ainsi que deux quatuors à cordes, datant respectivement de 1839 et 1840. Stanislav Moniuszko s'est donc surtout taillé sa réputation grâce à ses opéras, remplissant en Pologne un rôle comparable à celui de Smetana, Glinka, le groupe des cinq, Weber, Rossini et Aubert dans leur pays. Ses œuvres lyriques, qui se distinguent par une grande richesse mélodique dont l'inspiration trouve sa source dans les chansons populaires polonaises, biélorusses et même lituaniennes, constitue une habile combinaison entre l'influence du premier romantisme allemand, de l'opéra italien, et, bon sang ne peut mentir, du théâtre polonais. Ses nombreuses mélodies, formes musicales alors en vogue en Pologne, dont la situation économique et politique ne permettait que difficilement le développement des orchestres, ont également connu un beau succès. Il n'empêche que De Quatuor à cordes sont remarquables tant sur le plan de l'écriture que du point de vue de l'histoire de la musique polonaise, qui ne comporte que fort peu de bons quatuors composés au XIXe siècle.
Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Bélarus.
Assez peu connu en France, Stanislaw Moniuszko est souvent considéré que comme un compositeur relevant d'une discographie de complément. Son opéra le plus connu, le Manoir hanté, Strashny Dvor, comporte une intrigue compliquée plutôt du niveau d'une opérette. Deux célibataires sont poussés au mariage par des pseudo-sortilèges provenant d'un pseudo-manoir hanté. Et une musique composite assemblant des influences très diverses, allant d'Offenbach à Weber. Les plus remarquables parmi ses œuvres chorales sont les cantates Sonnette Krimskie, les sonnettes de Crimée, et Vidma, la sorcière, composées sur les paroles d'Adam Mickiewicz, un grand poète du romantisme polonais. La ligne mélodique est particulièrement expressive et dans certaines parties de la composition prend la forme de variations. Stanisław Moniuszko, qui a exprimé l'esprit national polonais, occupe dans la culture polonaise la même place que Smetana occupe dans la culture tchèque et Glinka dans la culture russe. Cependant, né au Bélarus et puisant son inspiration dans le folklore de ce pays, Moniuszko a fait une contribution inappréciable dans la culture biélorusse. Bélarus de A à Z. On peut bien sûr parler pendant longtemps de l'œuvre d'un musicien, mais la meilleure façon d'en faire la connaissance, c'est de l'écouter. Chers amis, je vous propose donc une des œuvres de Stanisław Moniuszko, interprétée par l'ensemble de flûtes biélorusses, Syrinx. Messieurs, dames, ce serait tout pour aujourd'hui. C'est Katerina Poletaeva qui anime l'antenne. Écoutez nos émissions en français et vous allez mieux connaître le Bélarus.
Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Bélarus.
Minsk est la capitale du Bélarus. Les habitants du pays et les touristes aiment ces villes pour ses larges avenues et ses ruelles tranquilles, ses parcs verdoyants et l'hospitalité des habitants. Les visiteurs de la ville affirment que Minsk est une des plus vertes villes en Europe. Et c'est une caractéristique juste. Bien sûr, les vicissitudes historiques ont laissé leurs traces dans son apparence. Le nombre de curiosités historiques n'ont pas évité la destruction. Et d'autres villes européennes peuvent offrir aux voyageurs beaucoup plus d'antiquités. Mais les esprits curieux peuvent certainement apprécier l'originalité extraordinaire de Minsk. C'est peut-être la seule ville au monde ayant un millénaire d'histoire qui a été complètement détruite pendant la guerre et restaurée après la guerre grâce à l'inspiration des architectes et aux efforts des habitants. Le bruit et l'agitation ne sont pas propres à Minsk. La ville est tranquille et sans précipitation, mais elle reste toujours fraîche et romantique. Elle a son ambiance particulière remarquée par tous qui viennent ici. Du calme, de la patience et de la gentillesse sont des traits caractéristiques de ses habitants. Minsk est une ville où personne ne se sent en étranger. Bienvenue au Bélarus.
这里是白俄罗斯广播电台，这是值得信赖的关于白俄罗斯政治、经济、社会和文化生活的信息源泉。我是中国汉办派往白俄罗斯国立大学的汉语教师李佐，现在我受托于白俄罗斯广播电台在此播音。我们的记者和编译团队为您准备了可以持续收听的关于白俄罗斯国家和世界重要事件的全部报道，请保持收听白俄罗斯广播电台的节目。
亲爱的听众朋友们，大家好，您正在收听的是白俄罗斯国际广播电台中文频道，现在在演播间为您播报的是您的朋友王哲。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔夫维奇表示，白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。他指出，应哈萨克斯坦方面邀请，白俄罗斯以观察员国身份出席在阿斯塔纳举行的上合组织成员国安全会议秘书第19次会议。白俄罗斯安全委员会国务秘书说，我希望这是白俄罗斯作为观察员国参加的最后一次会议。7月份的国家元首峰会上，希望能够最终完成我国加入上合组织的程序。白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。不久前，我与上合组织秘书长通过电话，他向我证实，所有国家都已签署了相关议定文件。接下来就是在国家元首峰会时正式接受我国加入上合组织。亚历山大·沃尔夫维奇强调，峰会将于7月4日举行，也是在白俄罗斯庆祝从纳粹侵略者手中解放80周年之后举行，这是非常有意义的。他表示，我们将成为第10个加入上合组织的国家，而且按字母顺序排列，白俄罗斯将排在第一位，这也很有象征意义。事实上，白俄罗斯拥护会议讨论的所有方面，并支持上合组织提出的所有倡议。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
沃尔夫维奇，白俄罗斯将成为上合组织东西方的桥梁。白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔夫维奇表示，白俄罗斯将成为上合组织东西方的桥梁。亚历山大·沃尔夫维奇说道，西方和东方之间又出现了一场争斗，这可能是一个哲学命题，生活在螺旋式前进。一方面，美国及其支持下的西方集体由于与美国的关系在经济方面失去很多，并在与上合组织成员国中国、俄罗斯联邦、印度和其他国家的交往中受到损失。白俄罗斯正好是东方和西方的桥梁，如果西方能够醒悟，按照正确的道路，通过对话、建设性互动与合作的方式，西方可能会受益。他指出，西方的行为损害了白俄罗斯的经济利益，对白俄罗斯实施制裁并进行经济打击。亚历山大·沃尔夫维奇还谈到了白俄罗斯加入上合组织后将获得的好处，他强调说，对白俄罗斯来说，俄罗斯联邦和中国是战略伙伴，已经建立了良好的双边关系。但是，当我们在上合组织的平台上解决更大范围的问题时，这将有助于白俄罗斯的经济发展，改善白俄罗斯居民的社会保障，这是最重要的。现在白俄罗斯是维护和平与安全的典范，这背后有总统、政府和公务员们的巨大付出。我国加入上合组织后，将进一步加强安全感，扩大国际合作框架和经济框架互动，改善我国福祉。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯文学史博物馆与华东师范大学签署合作协议。据文化机构报道，白俄罗斯国家文学史博物馆与华东师范大学签署了合作协议。白俄罗斯国家文学史博物馆馆长谢尔盖·乌斯克说， 与友好国家的合作扩大了白俄罗斯文学在中国的交流前景。中国长期以来对我们的文学都非常喜欢，许多经典作品都被翻译。现在白俄罗斯现代作家的作品也被翻译成汉语。谢尔盖·乌斯克解释说，未来我们在签署协议之前商定的联合项目，包括各种展览，都将得到落实。同时，合作协议的签署扩大了与中国白俄罗斯文化和文学研究中心的合作。据他介绍，今年秋天计划在华东师范大学举办一个展览项目《前线作家》，这对中国来说非常有趣。谢尔盖·乌斯克表示，我们将进一步合作，将博物馆的解说文本翻译成中文，以便将来可以将中文纳入我们的语音指南中。白俄罗斯国家文学史博物馆馆长总结说，我们将在不久后落实这些项目。我相信在更深入地了解这所大学之后，我们将能够开展其他有意义的项目。在这些项目中，我们将讨论白俄罗斯文学的独特性和深刻性，相信中国读者会喜欢我们的经典作品。这是我们在精神上与友好国家和人民积极互动的第一步。
白俄罗斯国际广播电台，欢迎您。
亲爱的听众朋友们，这里是白俄罗斯国际广播电台中文频道，感谢您的收听，我们下周再见。
这里是白俄罗斯您的朋友广播栏目。
海外的白俄罗斯人，南美山脉的多梅伊科科迪勒拉山，智利圣地亚哥大学多梅伊科矿石，多梅伊科紫罗兰，多梅伊科动物化石，多梅伊科港，是什么使它们联系在一起的呢？原来这些都是以一位科学家的名字命名的，他就是19世纪来自白俄罗斯的杰出科学家伊格纳济多梅伊科。他出生在白俄罗斯，并在这片土地上成长，接受教育，白俄罗斯一直都在他的心中。在遥远的南美大陆智利，我们的同胞得到了最高的礼遇。伊格纳济多梅伊科在这里发现了丰富的矿藏，并组织开采这些矿藏。他建立了图书馆、实验室和教育机构，并用不同的语言撰写了100多篇科学论文，多年来一直是圣地亚哥大学的校长。智利人民感激他，称之为伟大的启蒙者，并宣布他为智利的民族英雄。今天波兰、立陶宛以及伊格纳济多梅伊科的故乡白俄罗斯都纪念这位著名的科学家。2002年被联合国教科文组织宣布为伊格纳济多梅伊科年。
涅茨维什，涅斯维日，现代城市涅斯维日，距离明斯克100公里处的一个白俄罗斯小城市，以前它被称为第二个小巴黎。涅斯维日在历史上第一次提及可以追溯到13世纪，但是却是拉基维日公爵为这座城市带来的真正的荣耀和繁荣。19世纪最著名最神秘的白俄罗斯贵族选择这里作为他们的住所，一直到20世纪中叶都被称为是涅斯维日。在拉基维日的带领下，许多寺庙、大教堂、修道院都在这里修建。他们中大部分都一直保留到现在。16世纪第一本白俄罗斯语书籍在当地印刷厂进行印刷出版。这座城市最雄伟的建筑是涅斯维日城堡和宫殿，它一直保留到现在。拉基维日拥有藏书丰富的图书馆和大量的艺术收藏品。这里也曾是欧洲最大的宫廷剧院。涅斯维日的另一颗珍宝是保管上帝身体的教堂，这是白俄罗斯第一座巴洛克式教堂， 它保留着拉基维热的坟墓，是东欧境内唯一一个家族墓地。如今涅茨维日是白俄罗斯文化和旅游中心之一，每年将会举办民俗节日和白俄罗斯文化周。2005年，涅茨维日建筑和文化综合体被列入联合国教科文组织世界遗产名录。我们邀请您来欣赏白俄罗斯的历史宝藏。欢迎来到白俄罗斯。
我们邀请您来白俄罗斯。明斯克州为客人提供了许多有趣的地方，这还不包括白俄罗斯的首都。您在明斯克州可以参观有着近1000年历史的扎斯拉夫历史，这座城市保存了白俄罗斯最古老的城堡防御体系。在扎斯拉夫历史的博物馆文物保护区，可以了解白俄罗斯祖先的传统和他们的日常生活。为纪念伟大的卫国战争中著名的哈丁惨案而建成的纪念馆也位于明斯克州。该纪念馆建在哈丁村遗址上，在那里法西斯烧毁了村庄，屠杀了村民。哈丁纪念馆是所有战争受害者的纪念馆。每三个白俄罗斯人中就有一人在这场战争中丧生。在这个地方没有人会无动于衷。舒适的涅斯维日市曾经是实力雄厚的拉基维尔家族的主要住所，许多保存至今的历史和建筑遗迹记录了拉基维尔家族过去的强大，其中拉基维尔宫被列入联合国教科文组织世界遗产名录。直到20世纪，在公园耶稣会教堂里还埋葬着这个著名家族的成员。从明斯克出发，行驶40公里，您会来到一个非常特别的地方，这就是都都基特民族物质文化博物馆。其实很难称它为博物馆，因为所有的展品都是活生生的实物。这里完美地重现了白俄罗斯乡村的传统生活。在这里您可以感受到一切，自己烤乡村面包，自己做陶器，尝试当个铁匠或者磨坊主。在都都基特民族物质文化博物馆，您会有新发现，这里将给您留下美好的回忆。欢迎来到白俄罗斯。
白俄音乐盒。
Отбросив страх и сомнения, собрав все силы в кулак, из Беларуси вы первая, и по-другому никак. У звезд в далекое плаванье, за горизонт в космотур. Вот она точка отправная, космодром Байконур. Выше птиц, выше облаков, запомним мы без слов. Нам расскажите, какая
время спел. Все ближе к звездам, ближе к мечте. Вера в завтра и космонавтам на орбите будет, как на Земле.
Выше птиц, выше облаков, и в полет заполним мы без слов. Нам расскажите, какая же она в иллюминаторе.
Починається історія кожного з нас, з маленької родини, яка є спешотою, вигадувала нас, де вузькими стежками упевнена, ми будували шлях. Куди завжди ми вернемся, за силами, що нам дає земля. Я враз час отпачений, я бережливо нёс от деда, от прадеда, от матчины. Створался этот лёд, где узкими стежками упевнена побудовали шлях. Прихожую и незалежную мы сберегли и ввысь поднялися.
Перед кроч, краины стяг.